Ce matin, on continue notre série sur Jésus au centre. Jésus au centre. Hein? Dans le temps des fêtes, il y a tellement d'activités, il y a tellement de choses qu'on peut s'éparpiller à gauche, à droite. Des gens ici ont déjà été éparpillés dans le temps des fêtes? Quelques-uns? Je vois deux mains, trois mains. My! Hein? Il y a les activités, il y a les parties de Noël, il y a toutes sortes de choses. Et c'est un défi de mettre Jésus au centre. C'est un défi de mettre Jésus au centre parce que justement, c'est comme s'il y a une suractivité de préoccupation, d'achat de cadeaux même. Hein? Et là, il y en a qui font comme, « Ah non, t'as pas dit ce mot-là, Jean-Fred, achat de cadeaux. Non, j'ai pas pensé encore, qu'est-ce que je vais faire? » Puis là, c'est la frénésie, le cerveau. Et non seulement les activités sont en toute frénésie, mais notre cerveau commence à rouler à 1,5 de vitesse. Le but ce matin, c'est qu'on puisse se centrer sur Jésus. Les choses essentielles d'abord. Et je vais vous parler de comment qu'on peut mettre Jésus au centre dans cette période des fêtes. Et la semaine dernière, j'ai utilisé l'idée du repas de Noël comme étant un classique du temps des fêtes, mais qui nous rappelle que Jésus veut qu'on le place au centre. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Jésus au centre, la chorale de Noël ». Je prends un autre classique ce matin et je vous donne un peu d'histoire. Un peu d'histoire, c'est... Tu sais, les chorales là, qui passent d'une maison à l'autre en cognant puis qui chantent leurs petites chansons, là, ça vous dit quelque chose, ça? On vit dans une société où les gens sont tellement méfiants les uns les autres que c'est plus possible de faire ça. On ne sait pas comment on va se faire recevoir. Mais c'est un classique du temps des fêtes, cette idée-là qu'un groupe de gens se mettent à chanter, se mettent à faire des chants de Noël et c'est tout à fait festif. On voit ça dans les films puis on dit « Ah, c'est donc bien le fun, j'aimerais ça que quelqu'un cogne chez vous. » Ou peut-être pas, ça dépend s'ils chantent bien ou pas. En tout cas, à vous de voir, à vous de voir. Mais un peu d'histoire, c'est qu'il semblerait que ça date du Moyen Âge, cette idée-là de passer de maison en maison et puis d'avoir un chant qui est selon le festival ou selon l'occasion du moment. Et passer de maison en maison. Et ça date du Moyen Âge. Et puis, c'est souvent des notables qui passaient pour, oui, des hymnes, des chants de toutes sortes de toutes sortes de circonstances. Et puis, vous comprendrez bien que les chants, ça existe depuis plus que le 9e ou le 10e siècle. Là, on se comprend, là, évidemment. Ça va? Ils chantaient avant ça. Mais ce concept-là de passer de maison en maison, semblerait-il que ce serait dans le coin du 9e et 10e siècle. Et à ce moment-là, il y a des monastères d'Europe qui commencent à développer des chants sous la thématique de Noël. Il y en a ici qui aiment les chants de Noël, qui en écoutent dans leur voiture, genre 3 mois avant. Je baisse ma main, OK? 1 mois, c'est suffisant. C'est tout dans la même tonalité, en plus. Hein? Bon, heureusement pour les monastères d'Europe, il n'y avait pas Mariah Carey qui chantait Noël. Ils ont été épargnés de ça, c'est bien. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au 13e siècle, un certain Saint-François d'Assise qui a commencé à encourager les chants de Noël, mais non pas de les faire uniquement en latin, mais de les faire dans la langue naturelle des gens. C'est-à-dire que les gens ont composé dans leur propre langue des chants qui étaient justement de Noël et Saint-François d'Assise va se mettre à encourager ça. Et souvent, comment ça prenait forme? C'était un groupe qui était ensemble, les mains liées ensemble en rond et qui chantait le chant ensemble. Là, vous avez peut-être une autre image. Vous dites, ah, ça, c'est un chant d'enfant. Ah, ben, c'était comme ça un petit peu à cette époque-là. Et si on se rapproche un peu de notre histoire, ce sera au 15e siècle qu'un aumônier britannique, un certain John Audley, qui a composé 25 chants de Noël, qui seraient les premiers à avoir été faits en anglais. Et des groupes passaient de maison en maison pour partager la joie de Noël. Les gens faisaient du porte-à-porte pour que tout le monde, en particulier ceux qui ne pouvaient pas se déplacer en hiver, parce qu'en Angleterre, il y a de la neige, OK? Ben, que tous ces gens-là puissent entendre les sons joyeux de Noël. Intéressant, n'est-ce pas? Et puis, dans l'un des articles que j'ai consulté, ça disait la chose suivante, ça disait « Les chorales de Noël favorisent le sens de la communauté et de l'unité. Il permet aux gens d'entrer en contact avec leurs voisins, de répandre la joie des fêtes et de partager la joie de la saison. » De place en place pour partager la joie de Noël. Intéressant, hein? Lorsque Jésus est né aussi, ça s'est parlé de maison en maison. Peut-être qu'il n'y avait pas de petite chorale de Noël. Certaines mignonnes et d'autres moins. Mais il y avait cette idée-là qu'une telle nouvelle ne pouvait pas rester sous silence. De la même façon qu'à travers l'histoire, on voit justement que ces chants-là de Noël, hey, ça ne pouvait pas rester juste à l'intérieur. Il fallait que ça sorte, il fallait que ça soit composé, il fallait que ça soit partagé, il fallait que ça soit dit, il fallait que ça soit même chanté. Et ce qu'on veut voir ce matin, ce que je veux nous encourager de regarder, c'est de regarder à travers les différents acteurs de la nativité et de voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette nouvelle-là. C'est vraiment l'angle avec lequel je veux qu'on regarde. On sait qu'il y a plusieurs personnages qui ont entendu parler de cette naissance formidable. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette nouvelle-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette nouvelle? Et peut-être que, à travers leur exemple, peut-être que ça pourrait être un encouragement pour nous, non pas de chanter, hein, parce qu'il y a des gens qui sont clairement pas faits pour faire partie de chorale de Noël. Je vous ferai pas lever la main, OK? Mais pour le bénéfice commun, pour la santé publique, la paix sociale, vous êtes mieux de pas chanter, OK? Mais il y a cette idée-là de... À quel point est-ce que de la même façon que ces personnages-là de Noël, de la nativité, ont partagé, à quel point ça pourrait être une inspiration pour nous? Alors, on commence avec un personnage plutôt classique, celle de la mère de Jésus, Marie. Marie, dans Luc 1, verset 37 et jusqu'à 42, on l'a à l'écran, va dire la chose suivante. Commence, en effet, rien n'est impossible à Dieu. C'est un ange qui lui dit ça. Rien n'est impossible à Dieu. Et puis là, Marie va lui dire au verset 38, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Verset 39, qu'est-ce qu'elle fait avec cette nouvelle-là? À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Élisabeth, c'est la cousine de Marie. Verset 41, « Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, » dès qu'elle s'est mise à chanter à la porte, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. » Et je veux qu'on remarque la réaction initiale de Marie, c'était immédiatement d'aller voir sa cousine, d'aller voir la famille. C'est pas exactement ce qu'on fait ça à Noël. Dans mes souvenirs à moi, le temps des fêtes et la fête de Noël, c'est l'occasion de voir les cousins qu'on ne voit jamais le restant de l'année. Alors nous, ce qu'on faisait quand on était au de même, on prenait des Kleenex ou des morceaux de papier, on les chiffonnait ensemble, on mettait du tape là-dessus, on amenait nos bâtons de hockey, nos mini-hockey, puis on faisait ça pendant toute la soirée. On prenait 5 minutes pour manger, puis après ça, on retournait jouer au hockey parce que c'était ça le plaisir. C'était avec les cousins et avec les cousines, avec les gens qu'on ne voit pas souvent. Mais finalement, ce qu'on apprend, c'est qu'elle va passer même 3 mois avec sa cousine. Et finalement, qu'est-ce que je veux mentionner à travers cette histoire-là? C'est que Marie, à l'annonce de cette nouvelle-là qui est réjouissante, ne le garde pas pour elle. Elle ne fait pas genre, OK, je vais le garder pour moi. On verra ce qui va se passer. Non, elle ne garde pas cette nouvelle-là. Elle va l'annoncer directement à sa famille. Et je veux nous encourager à faire la même chose. Vous savez... Vous êtes peut-être la seule expression de l'Évangile que votre famille ne pourra jamais entendre. En fait, la Bible est importante, croyez-moi, OK? La Bible, c'est la lettre écrite par Dieu pour chacun de nous. Mais savez-vous quoi? Vous êtes une lettre, une parole très importante pour les gens de votre famille. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, on l'a à l'écran, je devine. Enfin, je ne l'ai pas oublié. Il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur vos cœurs. Et ce que je veux dire, c'est que la Bible est la parole de Dieu transmise à l'humanité, transmise aux hommes et aux femmes. Mais savez-vous quoi? Chacun d'entre nous, nous sommes une lettre de Dieu adressée à nos proches. Là, vous dites, ah ben là, c'est la Bible qui est la plus importante. Oui, pour le croyant, c'est la plus importante. Mais il se pourrait que la parole la plus importante que vos familles aient besoin de lire, ce soit la propre lettre que Dieu a écrite dans vos cœurs, à travers nos attitudes, à travers ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, ce qu'on va penser, comment qu'on va l'être. Parce que, en tout cas, si vous habitez au Québec, si vous êtes originaire du Québec, il y a fort à parier que votre famille ne connaît pas l'Évangile dans son entièreté, vos cousins, cousines, tout ça. Si on regarde le pourcentage de croyants au Québec, il se pourrait bien qu'il y en a qui, la seule lettre qu'ils vont voir, ce sera votre vie, que ce sera ma vie. Et je veux nous encourager à faire comme Marie, à être de celles qui n'hésitent pas à être cette lettre-là, à annoncer, à ne pas la garder pour elle, cette bonne nouvelle-là, mais à la partager à sa famille. Amen. Deuxième chose, on regarde des bergers. On l'a chanté dans le premier chant. Des bergers rencontrent des anges. Dans Luc 2, et là, je passe quelques versets là, à des fins d'être concis, mais ça veut dire qu'il y avait dans la région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Et tout d'un coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Donc là, les versets que j'ai skippés, c'est qu'il y a un ange qui est là, qui leur annonce, puis après ça, il y a une foule d'anges qui se joignent au premier ange. Okay? C'est comme un ange t'est passé, là, il y en a maintenant une foule. Okay? Et puis, ça veut dire... Une foule d'anges de l'armée se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. Voici quelle est leur réaction. « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Verset 17, voici la deuxième action. Ben, en fait, quand ils s'en vont voir Marie et Joseph, ils vont dire, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Mais au verset 18, on a une trace de qu'est-ce qu'ils font après avoir quitté cette espèce de lieu où Jésus était. Ça veut dire, tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Et là, jusque-là, tu dis, ben, c'est normal, tu sais, ils ont vu des anges. Ça pourrait être une bonne idée de partager aux autres. T'sais, si vous voyez un ange, ça pourrait être pas pire de le dire aux autres. Mais il y a quelque chose dans le contexte qui nous amène un peu plus loin. C'est-à-dire que les bergers, c'était des gens qui avaient peu d'instructions, c'était des gens qui étaient marginalisés à cette époque-là. En fait, tellement marginalisés que s'il y avait une cause qui allait en cours, c'était impossible pour eux de témoigner. Ils n'étaient pas assez crédibles même pour témoigner en cours. Ils n'étaient même pas des témoins valides. Et c'est intéressant que Jésus, va, à travers les anges, va révéler cette bonne nouvelle-là à des gens qui ne sont pas assez crédibles pour témoigner. Intéressant, n'est-ce pas? C'est comme si Dieu se plaît à leur donner cette nouvelle-là. Vous savez pourquoi il se plaît à faire ça? Parce qu'il sait qu'est-ce qu'ils vont faire. Il sait qu'est-ce qu'ils vont faire. Ces gens-là ne vont pas garder l'info pour eux, au contraire. Ils vont aller la partager. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils ne l'ont pas uniquement raconté aux parents de Jésus, mais ils ont, après ça, tous ceux qui voulaient bien les entendre, ils leur racontaient, et tous ceux qui les entendaient étaient étonnés de ce qu'ils leur disaient. Vous savez, les bergers auraient été les plus qualifiés pour s'auto-disqualifier. On va le dire. Je le redis, OK? Les bergers auraient été les plus qualifiés pour s'auto-disqualifier de partager cette nouvelle-là. Ils auraient été les mieux placés pour dire, « Hey, nous, on est juste des bergers, on ne peut pas parler de cette nouvelle-là. Nous autres, personne ne nous écoute. » On ne peut pas parler de cette nouvelle-là. Nous autres, on n'a pas l'instruction, ils ne nous croiront pas. Et là, vous me voyez venir, hein? Vous me voyez venir comme pas mal, là, hein? À combien de personnes j'ai entendu me dire, « Ouais, mais Jean-Fred, je ne connais pas ma Bible par cœur, comment je pourrais dire quelque chose? » Comme s'il fallait être les spécialistes pour partager l'espérance qui est dans nos vies. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous auto-disqualifier parce que vous aviez l'impression de ne pas assez connaître la Bible, de ne pas être assez comme ci, de ne pas être assez comme ça? Vous savez, l'histoire des bergers devrait nous encourager ce matin. Parce que vous savez, les bergers ne sont pas arrivés en disant « Voici tout le monde, Jésus est né à Bethléem comme il avait été prophétisé, comme ça avait été écrit dans le livre de la loi. Et maintenant, des anges nous sont apparus. » Et ils n'ont pas fait un récit, je dirais, de toute l'histoire de l'Ancien Testament pour en arriver. Ils ont juste été témoins de ce qu'ils avaient vécu avec l'ange. Ils ont partagé ce qu'ils avaient expérimenté, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient vécu à travers cette nuit. Parce qu'il faut comprendre que ces bergers-là, s'il y a un ange qui apparaît puis qu'il y a des lumières, c'est parce que c'était le chiffre de nuit. Les bergers étaient non seulement... C'était probablement les bergers avec le moins d'expérience. Tu sais, ceux qui ont les chiffres de fin de semaine puis de nuit, là. Ben eux, il y avait le chiffre de nuit et ils surveillaient leurs troupeaux pendant la nuit. C'était les dernières rentrées, vous comprenez? C'était pas juste des bergers, c'était des bergers qui, en plus, étaient sur le chiffre de nuit. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que même ces bergers-là ont eu cette audace-là de parler à quiconque voulait bien les entendre, non pas d'un récit théologique complet avec toutes sortes de mots longs de même, là, mais simplement avec l'expérience, avec ce qu'ils avaient vécu avec Jésus. Et peut-être que, des fois, plutôt que d'arriver avec des grands termes théologiques, ce pourrait qu'une simple expérience pourrait être suffisante de partager. Une simple prière pourrait être pertinente également. Une simple écoute pourrait être quelque chose qui fait du bien à des gens autour de nous dans cette période des fêtes. Et là, c'est drôle parce que je vais vous parler de ça et je vous parle du contre-exemple de ceux qui étaient très instruits. Parce que les chefs religieux, ils l'ont entendu aussi, cette bonne nouvelle-là. Et voici ce qu'ils font, eux, dans Matthieu 2, et on l'a au verset 1 à 5. Ça veut dire, Jésus va naître à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. » Écoutez bien le processus, OK? Le roi Hérode, quand il apprend ça, il fut troublé et tout Jérusalem est troublé aussi. Alors le roi va faire quelque chose, il va dire, « Hey, moi je ne connais pas l'histoire des Juifs, je ne sais pas quoi qu'ils parlent eux autres, mais il va rassembler les spécialistes, il va rassembler les gens qui connaissent. » OK? Alors, il rassembla au verset 4 tous les chefs des prêtres spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où, à quel endroit le Messie devait naître. Alors les chefs et les spécialistes lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qu'a écrit le prophète, de toi sortira. Puis là, il y a tout le contexte que c'était déjà écrit, que c'était à Bethléem qu'un Messie allait naître. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y en a pas un qui s'est pointé à Bethléem? Pas un! Il connaissait les bonnes réponses, il connaissait les prophéties, il savait que c'était un moment charnière dans l'histoire d'Israël. C'était le Messie tant attendu depuis des années. Ils ne se pointent pas. Ils ne bougent pas. Ils attendent. Ils envoient les mages en disant, là, Hérode va faire ça, il va dire, envoie les mages, puis quand vous aurez des infos, vous viendrez me voir. Alors, ils prennent une position passive en disant, oui, mais peut-être que oui, peut-être que non, c'est pas trop, on ne se pointe pas. Et là, on voit le contraste, hein? Les bergers, les mages. Les bergers n'ont aucune instruction, pas de bonne réponse, mais ils ont un cœur qui veut expérimenter Dieu. Les chefs ont toute la connaissance, tout ce qu'il faut. Même ils savent d'avance. Puis ils ne se pointent pas. Ils ne partagent pas. Ils la gardent pour eux en attendant que les choses... On va voir que si ou que ça, on ne sait pas trop. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Vous savez, être un spécialiste de la Bible, il n'y a pas de mal à ça. Hein? Mais connaître sans avoir un cœur pour Dieu, c'est grave. Connaître pour connaître, on voit que ça ne mène pas loin. Hein? Mais connaître avec un cœur qui a soif de ce que Dieu est en train de faire, oh là, on est ailleurs. Alors, on voit vraiment que, pourquoi est-ce que Dieu se révèle au berger? Parce que Dieu connaît le... Le cœur. Le cœur. Les bergers vont le partager à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Les chefs des prêtres, même si toute Jérusalem est comme shakée par cette nouvelle-là, est comme bouleversée, ils le gardent pour eux. Et ils attendent de voir. Une personne qui a la connaissance est bien pâle à côté d'une personne qui célèbre Jésus. Une personne qui célèbre Jésus. Parlant de ces mages-là, on continue l'histoire, on va voir quelle était la réaction des mages. Et ça, c'est quand même intéressant. Alors, on a la perspective des chefs, et là, je ne relirai pas les mêmes versets, je vais aller plus loin. Alors, ça veut dire au verset 9, « L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, cette étoile s'arrêta. Alors, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. » Les chefs religieux, pas de joie. Les mages, une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternent, ils l'adorent. Ensuite, ils ouvrent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et verset 12, « Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Vous savez, la parole de Dieu est riche en nuances. Dieu, connaissant le cœur d'Hérode, avertit les mages qu'ils devront raconter cette histoire extraordinaire-là à quelqu'un d'autre. Savez-vous quoi? Il est possible qu'il soit mieux de ne pas partager les merveilles de Dieu à des personnes malveillantes. La sagesse est requise. Je vous partage un passage dans les Proverbes qui me fait toujours sourire, que j'affectionne particulièrement. Et c'est deux versets consécutifs. On peut les mettre à l'écran. C'est Proverbe 26:4 et Proverbe 26:5. Alors, voyez comment c'est clair. « Ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. » Très bon conseil, n'est-ce pas? OK. On lit le prochain. « Réponds à un homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. » C'est qu'on fait, nous autres. De un, première bonne nouvelle, n'essaie pas de trouver toutes les personnes stupides autour de toi, OK? Première chose, le but, c'est pas de les trouver, OK? Mais quand il arrive une situation, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, la Bible nous dit d'y parler, ils vont y parler, moi, y dire, moi. Mais finalement, la Bible me dit de pas y parler, parce que sinon, c'est moi qui y ressemble. Se pourrait-il qu'on ait besoin de la direction de Dieu avant de parler à certaines personnes? et je pense que ce qu'on peut ressortir de ça, c'est un peu ça. Puis, à quelque part, les mages, avertis par Dieu, décident qu'il y a peut-être des occasions où c'est mieux de se la zipper. Et c'est la même chose. C'est la même chose même des fois dans nos familles. Il y a des fois où il vaut mieux se la zipper que de juste... C'est ça. Maintenant, est-ce que c'est une bonne nouvelle, celle de la naissance de Jésus? Est-ce qu'on devrait demander direction à Dieu, savoir quand on se l'ouvre puis quand on se la zippe? Oui, oui. Mais en même temps, ce qu'on voit là, c'est magnifique, puis ça ne l'est pas en même temps. Ça montre à quel point Hérode avait un cœur dur. Et savez-vous, quand finalement Hérode finit par le savoir à gauche, à droite, qu'est-ce qu'il va faire? Il y en a qui connaissent le reste de l'histoire. Il va faire tuer tous ceux qui ont 2 ans et moins, tous les jeunes garçons de 2 ans et moins, tellement son cœur est dur. Et probablement que le rêve qui est donné au mage de ne pas lui dire tout de suite permet à Joseph et Marie de partir de là avant que tout ça arrive. La grâce et la providence, la souveraineté de Dieu, même dans des moments avec des gens qui ont le cœur dur. Vraiment dur. Fait que des fois, tu sais, dans un zèle de tout, à tout niveau, on veut dire à tout le monde qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de Jésus. Il y a des fois où est-ce qu'il vaut mieux prier, discerner et pas faire n'importe quoi. Et peut-être que certaines personnes ici qui, à travers leur histoire, ont fait preuve d'un grand zèle, mais vivent 30 ans après encore avec les conséquences de ça. C'est-à-dire qu'il y a une règle dans le party de Noël, c'est que personne ne parle de Jésus. Parce que la foi où est-ce que lui a fait son show, il y a de ça 30 ans, ça l'a tout brisé. Ouais. Que Dieu nous donne de la sagesse, évidemment. OK, on revient à la mère de Jésus. OK, et ça, quelque chose d'intéressant. Il y en a-t-il qui savent c'est quoi le Magnificat? Le Magnificat, c'est comme un chant, le chant d'action de grâce que Marie va entonner. Et c'est un nom qu'on a donné à cette partie-là parce que c'est le début du chant, dans le sens c'est comme le mot au début du chant en latin qui fait Magnificat. Fait que c'est à cause du texte qu'on l'appelle comme ça. Mais voici ce que Marie va exprimer dans Luc 1, verset 46. Et voyez-le, est-ce que c'est un chant quand je vais le lire? La réponse est non. Pour la paix sociale de l'Église, c'est mieux que je ne le chante pas. OK? Mais voici ce que ça dit. Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront « heureuse », parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. » Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient le cœur dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. » Et là, il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est qu'avec cette nouvelle-là, Marie, oui, va le dire à Élisabeth, sa cousine, sa famille, mais savez-vous quoi? Elle va se permettre de l'exprimer à Dieu lui-même. Elle va exprimer sa joie de cette nouvelle-là à Dieu et elle va le faire même en chantant et en l'adressant comme un cri. Et on peut penser au chant de Myriam après l'événement de la mer Rouge avec Moïse. On peut penser au cantique de Dan dans l'Ancien Testament avec le fils qu'elle a reçu et qu'elle redonne au service du temple. Ici, Marie s'adresse à Dieu en présence de sa cousine Élisabeth. Elle parle à Dieu, elle chante à Dieu. Et savez-vous quoi? Pour garder un Noël centré sur Jésus, c'est pas seulement juste d'en parler autour de nous, mais c'est de continuer de parler à Dieu de la grandeur de cette nouvelle et de cette joie qu'il y a en Jésus-Christ. On a besoin de parler à Dieu, on a besoin de chanter à Dieu. Et savez-vous quoi? Vous pouvez chanter d'autres choses que « Le petit reine au nez rouge », ce serait bon aussi. Loin de moi l'idée de dire que j'aime pas la toune, mais je constate qu'il y en a des meilleurs que ça. Des chants de Noël, oui, des fois c'est commercial, puis tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Puis, mais là, c'est pas la même chose, OK? Là, Mariah Carey est dégelée en masse, là. Je veux dire, elle joue partout. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de chants qui parlent de Noël et c'est une ambiance festive. Hein? Il y en a ici que juste un chant de Noël, on l'entend aux premières notes que c'est un chant de Noël. Tu sais, il y a des petites clochettes, ça commence toujours de la même affaire, les accords se succèdent rapidement. C'est toujours pareil ou presque. Mais il y a des chants qui nous permettent de faire comme Marie, de célébrer la grandeur de Dieu. Et si ce Noël-ci, plutôt que de chanter n'importe quel chant, on soit intentionnel de chanter des chants qui élèvent Jésus, qu'on parle à Dieu à travers ces chants-là, bien, il se pourrait que nos cœurs soient centrés sur la naissance et non pas sur le Père Noël. J'ai rien contre le Père Noël, je me suis même déjà déguisé en Père Noël pour faire peur aux enfants, ou peut-être parce que j'ai la shape, là, en tout cas, vous le penserez comme vous voulez, là. Mais il y a cette idée-là d'un Noël qui est centré sur Jésus, c'est un Noël où est-ce qu'on ne s'adresse pas juste aux autres, c'est un Noël où est-ce qu'on s'adresse à Dieu. Des fois, on est tellement omnibulé par les cadeaux, par les ci, par les ça, on oublie même de chanter à Dieu. Et voici un bon conseil de l'Écriture que peut-être vous n'avez jamais entendu parler dans la période des fêtes, mais qui pourrait être vraiment bon. Opération Nero, je m'aimerais beaucoup d'ailleurs. Éphésiens 5, verset 18 à 20, va dire la chose suivante. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes de Noël, par des hymnes de Noël, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est un fichu de beau passage de Noël, ça, hein? Il y a des choses plus importantes que s'enivrer de vin. Celle de s'exprimer au Seigneur, celle de chanter, chanter à Dieu. Et si les cantiques de Noël servaient à chacun d'entre nous à être remplis de l'Esprit, remplis en laissant ce débordement de joie-là, notre débordement de reconnaissance honorer Christ dans cette période des fêtes, il me semble que c'est beau ça. Il me semble qu'on remet Jésus à sa place, là. On remet Jésus en haut centre, là. Hein? Chantez-le, vivez-le. Il y a un ancien pasteur ici qui disait « Chantez frais, chantez faux, mais chantez pour l'agneau. Let's go! » Quand vous êtes dans votre char, la paix sociale est maintenue. Puis à cette période-ci de l'année, on ne baisse pas nos fenêtres, fait que c'est correct. Dernier personnage que je veux partager avec vous avant de terminer. Il y a une certaine... Et justement, notre frère Daniel nous partageait d'un arbre un peu tout croche qui faisait penser aux seniors ou aux aînés, comme il les a appelés, j'utilise ses propres termes, les plus expérimentés. Et on va voir c'est qui la femme la plus expérimentée de toute cette période de la nativité, qu'est-ce qu'elle, elle a fait. Et je veux que ce soit un encouragement pour tous nos seniors ce matin. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Et de la même façon que notre frère disait tantôt, hey, il y a eu des épisodes dans sa vie qui ont fait en sorte que ça a poussé tout croche. Cette personne-là aussi a vécu des choses qui n'étaient pas faciles. On ne connaît pas toute sa vie, mais on a un petit extrait. Et c'est Anne, cette prophétesse qui était dans le temple quand Jésus a 7-8 jours puis qu'il vient dans le temple. Et voici ce que ça va dire au verset 36 et 37 de Luc 2. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et maintenant âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Est-ce que vous comprenez un peu le niveau d'épreuve, là? 7 ans mariée, veuve, puis après ça, probablement pas d'enfant, et puis elle se ramasse et elle choisit de donner sa vie dans le temple à travers le jeûne et la prière. On le voit dans la suite. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Verset 38. Arrivée, elle aussi, à la même heure que Jésus se pointe au temple avec ses parents. Là, Jésus, à sept jours, il ne marchait pas. Là. Il fallait qu'il soit dans les bras de maman et papa. Là. Il n'y avait pas de poussette Graco non plus. Hein? Ça n'existait pas, ça. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. À 84 ans, elle a vécu des choses pas faciles, mais elle se consacre au temple, elle prie, elle jeûne, elle attend ce moment où est-ce que le Messie revient. Et lorsqu'elle reconnaît ce moment-là, qu'elle discerne ce moment-là, ben, elle fait exactement ce que les chorales de Noël faisaient. À tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël, elle se met à leur raconter qu'un sauveur est né, que Jésus est là, que le Messie est né. Et quel merveilleux exemple d'une femme qui est sage, d'une femme fidèle, dévouée à Dieu. Et vous savez, avant que Jésus ne prêche à ses disciples d'aller par tout le monde, de faire des nations des disciples, cette femme-là l'avait compris bien avant que Jésus le prêche. Hein, ce Matthieu 28, qui faisait « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, ça c'est Jésus qui parle, je suis avec vous les disciples, à tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci. Vous savez, quel merveilleux exemple d'une femme qui a pris l'énergie qu'elle avait et qu'elle a décidé d'en parler à qui? À tous ceux qui avaient soif. Intéressant, hein? Elle n'en parle pas aux gens de toute sa famille, probablement qu'elle n'avait pas beaucoup de famille. Mais elle en parle à tous ceux qui avaient soif, tous ceux qui attendaient cette délivrance d'Israël. Et on le voit dans tout le récit biblique de l'Ancien Testament, les Juifs soupirent après un Messie, soupirent après celui qui allait délivrer Israël. Et c'est une longue attente. Avant que Jésus arrive, il y a 400 ans de silence prophétique. Ils l'attendent depuis longtemps et il y a des Juifs sincères qui attendent ce moment-là comme jamais. Vous savez, on est dans un monde qui est plutôt agité. On est d'accord là-dessus? Mais savez-vous quoi? À cette époque-là aussi, c'était agité. Il y avait les Romains qui contrôlaient, qui faisaient la loi, qui rendaient les gens plutôt pauvres, qui les opprimaient. Il y avait cette idée-là que, comme si Dieu était absent, il y avait une agitation qui était là. Il y avait quelque chose qui n'était pas juste, c'est si beau. Tu sais, des fois, on voit les images de la nativité, puis on est comme, waouh, ils vivent dans un environnement tellement serein. C'est merveilleux. L'étoile, le ciel noir avec les étoiles. Puis, hey, pantoute, il a fallu qu'ils dorment d'une étape pour accoucher. Ça marchait pas. Vous comprenez, il était obligé de se rendre d'un recensement que les Romains avaient exigé avec une femme qui est sur le point d'accoucher, qui fait plus que 20 km sur le dos d'un âne. Pouvez-vous imaginer ça? Vous êtes à 38 semaines sur le dos d'un âne, sur une route qui n'est pas pavée. Ça doit pas être le fun, hein? J'ai pas accouché encore. J'ai pas l'intention de le faire non plus. Mais je peux, mon épouse a eu 3 enfants, puis je peux m'imaginer que ça devait pas être le fun du tout, là. Puis ça, c'est juste parce qu'il y a un gouvernement qui décide, hey, là, ça me prend un recensement, tout le monde faut qu'il aille là, vous avez pas le choix, sinon. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, sinon. Mais connaissant les Romains, ça devait pas être doux. On vit dans un monde agité, mais vous savez quoi? Il y a rien de nouveau sous le soleil. C'était comme ça à cette époque-là aussi. Il y a des fois, on se dit, ah, mais c'est tellement agité, qui va pouvoir entendre? Vous avez pas idée à quel point la paix d'une personne peut être déstabilisante pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Et là, cette femme-là, justement, elle s'était retirée pour être dans le temple, pour se garder zélée pour Dieu. Elle attendait ce moment-là, tout comme son homologue Siméon, si vous voulez lire le passage dans Luc également. Siméon aussi, il disait, « Hey, le Seigneur m'a donné une promesse que mes yeux verraient le Messie. » Fait que j'attends ce moment-là, puis il était sur la fin de la course aussi, lui. Il était aussi d'un âge avancé. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous regarderez les films de Noël, c'est bien beau, mais dans les coulisses, ça brasse parce que c'est un peuple qui les opprime. Et ils attendent la délivrance de ce Messie. Et savez-vous quoi? Anne va faire quoi? Elle va aller voir chaque personne qui attendait cette délivrance-là. Toute personne qui avait soif de Dieu, elle va leur partager cette bonne nouvelle-là. Elle va lui partager la bonne nouvelle qu'un Sauveur est né, qu'un Messie est arrivé. Vous savez, si on veut mettre Jésus au centre, ben moi je pense que lorsqu'on passe un mois complet à célébrer Jésus, ben ce serait normal d'être rempli de Jésus. Si par exemple on organisait à l'église un mois complet de prière et adoration. À tous les soirs, on prie, on adore Jésus. À tous les soirs, on prie, on adore Jésus. À tous les soirs, on prie, puis on adore Jésus pendant un mois. Savez-vous quoi? Il se pourrait que le 31, vous soyez en feu. Vous comprenez? Bien, si on célèbre Jésus pendant un mois complet, parce qu'au Québec, on le célèbre du 1er novembre au 5 janvier, en tout cas. Mais il se pourrait que si on célébrait Jésus pendant cette période-là, il se pourrait que ce soit normal qu'on soit rempli de Dieu. Amen. Rempli de joie, rempli de foi, rempli de reconnaissance, rempli de Dieu lui-même. Parce que vous savez quoi, Noël, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. On l'a chanté, hein? Une nouvelle de réconfort, une nouvelle de joie, une nouvelle aussi d'espérance, une nouvelle qui annonce la délivrance, une nouvelle d'amour. Une nouvelle d'humilité aussi, hein? Les circonstances de la naissance de Jésus n'étaient pas le... C'est pas d'un palace, hein? C'était assez rustique. C'est plus rustique que notre camping rustique à nous. Mais savez-vous quoi? Non seulement Noël est une excellente période pour être rempli de Dieu, mais c'est une excellente période, un moment unique de partager cette nouvelle-là. Que ce soit à notre entourage, à notre famille, de la partager aux croyants autour de nous. On peut se réjouir les uns les autres, hein? Amen. On peut se réjouir de cette nouvelle-là. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? J'aimerais qu'on puisse prier que Dieu puisse nous donner des occasions d'être une Anne, d'être une Marie, d'être de ces bergers, d'être de ces différents personnages-là qui n'ont pas gardé la nouvelle pour eux, mais qui l'ont partagée avec toute la sagesse et tout l'amour et toute la joie qu'ils avaient. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous appelles encore aujourd'hui à faire de toi le centre de Noël. Au-delà de toutes les flanflans, les activités, les planifications, Seigneur, accorde-nous, Seigneur, de te mettre au centre de cette période des fêtes, cette période de Noël. Et Jésus, je te prie que tu puisses remplir chacun de ton esprit, Seigneur, pendant cette période. Qu'on puisse être de ceux qui sont pleins de cet amour, de cette joie qui est tienne, Seigneur. Et Jésus, je veux te prier que tu puisses nous donner des occasions de discerner les bons moments, de discerner, Seigneur, les temps, Seigneur, pour partager cette nouvelle de réconfort et joie. Cette nouvelle, Seigneur, qui a changé notre vie. Cette nouvelle, Seigneur, qui nous permet de vivre dans la paix dans un monde si agité. Seigneur, accorde-nous cette grâce-là de pouvoir le partager, Seigneur. Non pas comme... Non pas, non pas comme des gens qui défoncent ou qui défoncent les portes, non pas comme de ceux qui amènent des discours avec tellement de connaissances et peu de cœur, mais accorde-nous de le faire avec un cœur, ton cœur, Seigneur. Alors Jésus, je te prie, Seigneur, pour ta bénédiction, ta faveur, Seigneur, sur chacun, pour ta grâce. Et Seigneur, alors qu'on, peut-être ce sera une 50e fois qu'on célèbre Noël, Jésus, je te prie que tu puisses renouveler cette joie-là dans nos cœurs de savoir que tu es Christ le Seigneur. Je te prie, Seigneur, que même si ça fait 75 Noël que vous passez, Seigneur, que tu puisses renouveler cette joie et cet émerveillement-là comme tous les personnages de la nativité. Je te le demande, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ensemble? Amen.